Chers amis, chers frères et sœurs, pèlerins du Fort-Bourg, voici notre dernière rencontre au cours de ces fêtes. Tout le monde le sait, en Suisse en tout cas, nous sommes en période électorale, mais rassurez-vous, je ne vais pas ajouter mon propre refrain à tous ceux qui nous sifflent parfois trop fort dans les oreilles. Pourtant, il y a un mot que j'entends assez souvent ces jours derniers, c'est le mot intégration. Intégration. On veut intégrer. Intégrer qui et intégrer à quoi? Eh bien, on le dit, on veut intégrer les étrangers qui ne parlent pas notre langue, qui n'ont pas notre religion, qui n'ont pas notre culture. On veut les intégrer à notre groupe. À notre groupe. Et notre groupe, eh bien, c'est vous et moi qui le formons. C'est notre groupe traditionnel. Là, en Suisse, tel que la culture, la langue, les religions nous ont formés. Eh bien, je retrouve le même problème un peu dans l'évangile que je viens de lire. Il y a deux groupes, mais deux groupes apparemment fermés, qui sont face à face et ils se cherchent à s'intégrer. Mais l'intégration n'est pas facile. Il y a un premier groupe qui est formé par la famille de Jésus. J'allais dire sa famille de sang, ceux qui sont proches de lui par le sang. Sa mère, on mentionne sa mère, évidemment, c'est sa mère qui l'a mise au monde, mais aussi ses frères, ses sœurs, entendez, on peut le traduire comme ça, ses cousins, ses cousines, les gens de son village, ceux de Nazareth. Ceux-ci forment un cercle. Et puis, ils arrivent en face d'un autre cercle, on le dit dans l'Évangile, un cercle qui aussi apparemment est fermé, c'est le cercle des disciples de Jésus. Ses disciples ne viennent pas de Nazareth, ils n'ont pas de lien du sang avec la famille de Jésus, mais ils sont les disciples de Jésus. C'est une sorte de famille spirituelle, voyez-vous. Donc d'un côté, on a la famille du sang, les liens du sang, et de l'autre côté, on a une famille spirituelle. Vont-ils s'intégrer? Les premiers cherchent à intégrer les seconds dans leur groupe. On nous dit que la famille de Jésus cherche non seulement à voir qui est Jésus, et on le sait par l'évangile de Marc, mais à le ramener à Nazareth, à le ramener chez lui, d'où, à leur avis, ils n'auraient jamais dû partir. Alors Jésus a cette phrase admirable, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Eh bien, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Autrement dit, ma véritable mère, mes véritables frères et sœurs, ce sont finalement mes disciples. Ce n'est pas les disciples à s'intégrer dans la famille de sang, mais ce sont eux à venir s'intégrer dans cette famille spirituelle qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Alors voilà, la mère de Jésus est non seulement sa maman, mais elle est aussi la première des disciples. La première des disciples. La mère de Jésus fait partie par le sang du premier cercle, mais elle fait partie aussi par sa spiritualité, par son écoute du deuxième cercle. Il y a un autre passage dans l'Évangile qui est très frappant. Un jour, une femme, c'est normal qu'une femme parfois parle comme ça, voyant un miracle de Jésus, elle s'adresse à Jésus puis elle dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont sucé. » Je traduis textuellement, et Jésus répond, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Il ne repousse pas sa mère, mais il inclut sa mère vraiment dans le cercle de ses disciples. Et nous savons combien Marie a suivi Jésus, on l'a répété suffisamment tout au cours de cette semaine, et comment elle est pour nous un véritable exemple, l'exemple du disciple. Je rappelle simplement trois moments de Marie qui ont fait l'objet des prédications de cette semaine. Le jour où elle reçoit cet appel extraordinaire de Dieu, elle s'arrête, elle se pose une question, puis ensuite elle accepte cette question, elle accepte de devenir la servante du Seigneur, elle chante son cantique d'action de grâce, Mais elle sait aussi que ce chemin qu'elle va prendre ne sera pas un chemin facile, mais qui va l'entraîner à être au pied de la croix. Et aujourd'hui, même au-delà de la croix, parce que la mère de Jésus est devenue aussi la mère du disciple et notre mère. Et ça, c'est très intéressant, chers amis. Vous voyez, notre Église n'est pas fondée sur une mafia familiale. Elle n'est pas fondée sur une mafia locale. Mais elle est universelle dès le départ. Universelle, son universalité, c'est la parole de Jésus et l'obéissance à la parole de Jésus. Et je n'ai pas été le seul à le remarquer au cours de cette semaine au Faubourg, d'avoir applaudi d'une certaine manière à la présence, à quelques occasions, de prêtres qui nous venaient d'Afrique. Il y en a eu 4 prêtres différents d'Afrique qui nous ont rappelé justement que Notre-Dame du Faubourg, excusez-moi, c'est pas seulement la Notre-Dame des Jurassiens, mais c'est la Notre-Dame de tout le monde. La Notre-Dame de tout le monde. Et que dans l'Église, il y a une famille sans frontières, une famille universelle et qui est fondée directement sur la parole de Dieu et la mise en pratique. C'est ça. Oui, Jésus dit, celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, celui-là est mon disciple. Il y a une très jolie parabole dans l'évangile de Saint Matthieu. Qu'aiment choisir habituellement les gens qui se marient? Je me suis demandé un petit peu pourquoi. C'est la fameuse parabole des deux maisons. Hein. Il y a une qui est construite sur le roc, puis il y en a une autre qui est construite sur le sable. Évidemment, ce qui doit arriver arrive à cause des inondations et des éboulements. Celle qui est construite sur le sable, eh bien, elle part dans la rivière, elle part dans la Birse. Et puis celle qui est construite sur le roc, comme au Faubourg, eh bien, elle reste. Et quand on demande justement aux jeunes mariés pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce texte, quel est le roc sur lequel ils veulent bâtir leur mariage, alors ils ont un mot, alors ils sourient jusque-là, ils disent « Mais c'est l'amour, mon père !» Bien sûr, c'est l'amour. Jésus ne dit pas que ce n'est pas l'amour, mais Jésus dit une chose différente d'une certaine manière. Ce qui assure notre maison sur le roc, ce qui nous donne la stabilité, c'est d'écouter sa parole, et pas seulement de l'écouter, mais de la mettre en pratique. Écouter, parler, mais surtout faire. Il y a ce proverbe en français qui nous dit « Il y a loin de la coupe aux lèvres », n'est-ce pas? On peut très facilement parler sans conséquence, sans vérité. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des hommes et des femmes conséquents avec la parole que nous entendons. Et en ce sens-là, la Vierge Marie est un exemple extraordinaire. Elle a été conséquente, elle a été jusqu'au bout, elle n'a pas tellement parlé finalement, elle a entendu parler, elle a remué ses paroles dans son cœur, et puis elle est allée jusqu'au bout de son aventure. Le thème de ses prédications, c'était une ou deux choses que je sais d'elle. Le « je », c'est l'Écriture. Une ou deux choses que l'Écriture nous parle. J'aurais pu l'intituler aussi « Le silence de Marie » ou bien « Le silence sur Marie ». Dans l'Écriture, Marie ne parle pas beaucoup. 3 phrases seulement qu'on peut repérer, disons, dans l'Écriture. 3 ou 4. 4 phrases qu'on peut repérer dans l'Écriture et rien de plus. On n'en parle pas tellement non plus. On n'est pas bavard sur Marie. Mais elle est l'exemple vraiment du disciple qui met en pratique ce qu'elle a entendu dans le silence, dans la sérénité, dans la paix. Et pour nous, elle nous ouvre un chemin merveilleux. Il ne suffit pas de parler trop de Marie. Il ne suffit pas de la prier beaucoup. Mais il suffit, je pense, de vivre comme elle dans la fidélité à la parole de Dieu. Cette fidélité qui la conduit finalement à son bonheur et son bonheur qui est le nôtre. Je termine ces quelques mots par une évocation d'un beau poème. Un poète de notre temps, oh, de notre temps, du siècle dernier, les plus âgés peut-être parmi vous ont entendu son nom, qui s'appelait Paul Claudel, a écrit un jour un poème à Marie. Et il a intitulé « Prière à la Vierge à l'heure de midi ». Nous sommes à 15-16 heures maintenant, mais il fait peut-être tout aussi chaud qu'à midi. Prière à la Vierge au moment de midi. Eh bien, c'était une prière absolument silencieuse. Il entrait dans une chapelle, sous la pression de la chaleur, la pression du jour, il s'asseyait sur un banc, il regardait la Vierge, et puis ce regard suffisait. C'était un regard croisé, c'était un regard silencieux. Le silence de la mère rejoignait le silence du fils et le silence du disciple finalement. Vous le savez bien, à mesure qu'on avance en âge, n'est-ce pas, et que vous avez encore la chance d'avoir votre compagnon, votre compagne à vos côtés, il n'est pas nécessaire de parler beaucoup pour se comprendre. Un seul regard suffit, un regard parfois qui peut s'accompagner d'un long silence, et cela vaut beaucoup mieux que tant de bavardages, et parfois nos prières à la Vierge aussi ressemblent un peu du bavardage. Si nous sommes là au Faubourg aujourd'hui, c'est pour simplement la regarder, pour qu'elle puisse aussi nous regarder et qu'elle puisse nous conduire dans tous les détours de notre vie, là où Jésus veut bien nous mener.